Dialogue entre Congolais et Frisons avec Claude Tien de la présentation.
Bonsoir et bienvenue à cette émission Dialogue entre Congolais du mardi 24 juin 2008. Deux thèmes sont au sommaire de l'émission de ce soir. La Cour pénale internationale, CPI, va finalement trancher la semaine prochaine la demande de mise en liberté de Thomas Lubanga, requête formulée ce mardi à La Haye aux Pays-Bas par la défense de ce dernier. Pour l'avocat de Thomas Lubanga, il n'y a plus aucune base légale pour que son client soit maintenu en prison. Pour rappel, la CPI avait suspendu le 13 juin dernier le début de ce procès. Le second thème du dialogue entre Congolais du ce soir, c'est l'évaluation du programme Amani au Sud-Kivu, près de 5 mois après son lancement. Où en est-on avec ce programme au Sud-Kivu et quel avenir pour ce programme dans cette partie du pays? Nous avons invité ce soir le docteur Mashako Mamba, coordonnateur de la commission humanitaire et sociale du programme Amani, Monsieur Asanda Mwenebatu, porte-parole des groupes d'armées du Sud-Kivu, et Elson Malamou, coordonnateur de l'ONG Coalition pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants soldats en RDC. Certains auditeurs ont déjà réagi aux deux thèmes de ce soir. François Latia de Daru dans la province orientale se demande pour quelles raisons les enquêteurs du procès de Thomas Lubanga hésitent de donner des informations en rapport avec les crimes commis en Ituri. Craignent-ils pour leur sécurité? Se demandent-ils. Il se demande aussi au cas où Thomas Lubanga a été libéré sans procès, les autres seigneurs de guerre encore assis en RDC ne continueront-ils pas à commettre des exactions sur les populations civiles, sachant qu'ils ne seront pas poursuivis? Enfin, bienvenue Mundele depuis Uvira dans le sud Kivu, affirme qu'on ne sent pas l'impact du programme Amani sur le terrain, car d'après lui, la paix n'est pas encore de retour et les miliciens font toujours la loi, malgré leur signature de l'acte d'engagement.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Procès Thomas Lubanga, l'audience d'aujourd'hui a été consacrée à l'examen de la demande de mise en liberté de Thomas Lubanga, requête adressée par les avocats du président de l'Union des Patriotes Congolais, Thomas Lubanga. Par contre, les avocats des victimes se sont opposés à cette mise en liberté. Pour sa part, le procureur du tribunal a promis de répondre à cette question la semaine prochaine. Suivant Catherine Mabi, avocate de Thomas Lubanga, qui s'est entretenue avec notre confrère Guy Roger Nyampala.
Bonjour Madame Catherine Mabi.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de la séance d'aujourd'hui sur le procès de votre client Thomas Lubanga?
Aujourd'hui, l'audience était consacrée à la mise en liberté de Thomas Lubanga. Donc le procureur et les participants, c'est-à-dire les représentants des victimes, se sont opposés à cette mise en liberté tout court, et nous avons plaidé pour la mise en liberté de Thomas Lubanga. Les juges ont demandé que nous écrivions des observations pour vendredi et prendront leur décision la semaine prochaine.
Madame Catherine, pourquoi vous demandez la mise en liberté de Thomas Lubanga?
Parce que les juges ont rendu une décision le 13 juin 2008 qui arrête la procédure. Et si vous arrêtez une procédure, la conséquence de l'arrêt de cette procédure, c'est la remise en liberté de la personne.
Pourquoi a-t-on demandé l'arrêt de cette procédure de poursuite contre Thomas Lubanga?
Les juges ont considéré qu'après un an, puisque ça fait un an qu'il y a des audiences relativement régulières, les conditions d'un procès équitable n'existaient pas. Pourquoi? Parce que le procureur a obtenu un certain nombre de documents qui sont des documents à décharge, des documents qui viennent soit atténuer la responsabilité de Thomas Lubanga, soit même quelquefois, sur le fondement même de sa responsabilité, l'exonérer. Les juges ont considéré que ces documents-là ne nous étaient pas transmis à nous, avocats de la défense, et comme ces documents-là ne nous étaient pas transmis, le procès ne pouvait être équitable. Le procureur répond, je ne vous transmets pas ces documents parce que ces documents, je les ai obtenus avec un accord de confidentialité, en particulier avec la source principale qui est l'ONU, et l'ONU a refusé de mettre à disposition ces documents pour que nous puissions en avoir connaissance.
Catherine Mabille, les avocats des victimes pensent que remettre Thomas Lubanga en liberté serait une boule de feu lancée sur l'Ituri, prête au règlement des comptes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cela pourrait renforcer l'impunité dans cette partie de la RDC et selon certaines ONG locales.
Écoutez, moi je ne vais pas me prononcer sur cet aspect. Moi je vous dis simplement, il y a des règles de droit. Ces règles de droit, elles sont applicables pour tous. La décision a été rendue par des juges extrêmement compétents. Aujourd'hui, le procureur et les victimes, enfin les représentants des victimes en ont interjeté appel. Je pense que de toute manière, il n'est pas très sain d'essayer de mettre de l'huile sur le feu quand c'est véritablement pas nécessaire. Voilà quelle est ma position.
Pourquoi, selon vous, le procureur refuse de mettre à votre disposition ces éléments qui déchargent, comme vous l'avez dit, Thomas Lubanga?
Le procureur, lui, dit, c'est parce que j'ai signé des accords de confidentialité avec l'ONU que je ne peux pas vous transmettre ces documents. Mais quand même, la justice, elle doit être rendue avec un principe de vérité. Pourquoi est-ce que l'ONU ne voudrait pas donner des documents qu'ils ont, qu'ils possèdent, pour que, puisque vous parlez de la population de l'Ituri, ben pour que la population de l'Ituri puisse apprécier, eux aussi, qu'est-ce qui s'est fait exactement dans leur pays. Et ces documents sont des documents, encore une fois, de l'ONU. L'ONU a été présente en Ituri pendant des années. C'est une source essentielle, puisqu'ils étaient sur le terrain. La question qui peut se poser, c'est pourquoi l'ONU refuse de nous donner ces documents? Qu'est-ce qu'ils veulent cacher? La justice, c'est la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, c'est que tous les éléments doivent être donnés.
Madame Catherine Mabille, je vous remercie.
Je vous en prie.
À la question de savoir pourquoi les Nations Unies refusent de donner certains éléments d'enquête à propos du cas de Thomas Lubanga, la porte-parole ad intérim de la MONUC affirme que seul le bureau juridique des Nations Unies peut décider de la confidentialité ou non d'un document. Pour Sylvie Van den Wildenberg, cette question ne relève pas de la mission des Nations Unies au Congo MONUC. Elle est au micro de notre confrère Willy Akonda.
Toutes les questions relatives à l'accord de collaboration entre les Nations Unies et la Cour pénale internationale sont traitées par le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies à New York. Il y a des contacts réguliers, et en particulier sur cette question, entre ce bureau et la Cour pénale. C'est un argument de la défense. La défense a le droit à la parole et évidemment a le droit d'utiliser tous les moyens qui sont en son pouvoir pour défendre au mieux son client. La MONUC, en ce qui la concerne, n'est pas liée à ce dossier. Toutes les questions qui sont relatives aux coopérations de la Cour et des Nations Unies en ce qui concerne les documents, leur confidentialité, sont traitées entre la Cour et le Bureau des affaires juridiques.
Merci beaucoup à la porte-parole de la MONUC. Avant de passer à notre deuxième thème du jour, si vous voulez réagir, voici comment vous pouvez le faire.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Évaluation du programme à Mani près de 5 mois après son lancement au Sud Kivu. Où en est-on avec ce programme? Et quel avenir pour ce programme dans cette partie du pays? C'est le second thème de l'émission de ce soir. Quel est l'état de lieu du programme Amani au Sud Kivu près de 5 mois après son lancement? Élément de réponse avec notre confrère Jean Cassani qui est sur place au Sud Kivu.
Au Sud Kivu, le programme Amani est confronté à des difficultés entretenues par certains groupes armés. Les combattants Maïmaï, secteur de Calais et les Mera, par exemple, sont accusés de recruter les enfants et de réenrôler les démobilisés pour gonfler leurs effectifs. Les concernés refutent ces allégations, mais les associations de protection des droits de l'enfant disent détenir toutes les preuves. Au même moment, ce groupe Maïmaï de Calais annonce qu'il se désolidarise avec le Mudundu 40 qui a signé pourtant l'acte d'engagement de Goma au nom de tous les groupes armés des territoires de Calais et de Kabare. L'annonce a été faite vendredi passé par les officiers de ces mouvements en présence d'une équipe de la MONUC Bukavu conduite par la division des affaires politiques. Ce Maïmaï repose au leader politique de Mudundu 40 le détournement des fonds destinés à la sensibilisation ainsi que le manque de collaboration. Toutefois, ils se disent déterminés à soutenir l'acte d'engagement de Goma dont, dirait, ils ne sont pas directement signataires. On écoute l'officier chargé de l'administration au sein du mouvement Maïmaï secteur Calais et l'Emera, le lieutenant-colonel Mapenda Norwegera, dans un mémorandum qu'ils ont présenté à la délégation de la MONUC en mission.
Nous, Maïmaï de Calais, nous n'avons pas reçu de l'argent de sensibilisation. Les politiciens ont détourné l'argent à notre compte, disant que nous sommes leur groupe, pourtant ils ne nous reconnaissent même pas. C'est pourquoi nous les refusons aussi. Nous ne sommes pas un groupe ni de Simba Maïmaï, ni de Kifuafua, ni de Mudundu 40.
Le même mouvement reproche au PARECO et notre groupe signataire de l'acte d'engagement de violer les accords à travers les attaques des positions Maïmaï Lemera vers les hauts plateaux de Calais. Hormis les Maïmaï de Lemera, d'autres groupes armés non signataires des actes d'engagement existent dans Calais. Il s'agit de Simba Maïmaï et de Maïmaï Kifuafua. C'est dans ce contexte un peu confus que l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion a lancé lundi dernier à Bukavu la campagne Zéro Enfant associée aux forces et groupes armés. Le but, selon le président national du programme, le professeur Ntumba Luaba, est de soustraire tous les enfants encore actifs au sein des forces et groupes armés au sud Kivu et du pays. La campagne s'adresse plus particulièrement aux responsables des FRDF d'une part et des groupes armés d'autre part. Les statistiques en possession des organisations de protection de l'enfant prouvent que 1500 enfants au sud Kivu sont toujours utilisés malgré l'acte d'engagement signé à Goma par les groupes armés. Confirmation du chef de bureau à l'UNICEF Bukavu, Daniele Keilen.
Le phénomène enfant soldat ou Kadogo est parti de cette province des années 1996 jusqu'à s'étendre sur l'ensemble de la République, jusqu'à atteindre un chiffre qui fait peur entre 30 000 si pas 50 000 enfants ont été associés d'une manière ou d'une autre aux forces et groupes armés. Depuis 2000, les agences de protection de l'enfant ont lutté pour que cette pratique cesse, démontrant que la place de l'enfant se trouve en famille et non au sein des groupes ou forces armées. En dépit de tous ces efforts et du fait de plus de 90% d'enfants de ces forces et groupes armés, nombreux d'autres enfants restent sous l'emprise de certaines unités de l'armée régulière non brassée et des groupes armés réfractaires au braquage. En ce moment, ils sont estimés à 1534 enfants seulement dans la province du Sud-Kivu.
Le président du Parlement d'enfants au Sud-Kivu souhaite que l'actuel programme, c'est-à-dire le PLDDR, soit plus efficace que l'ex-CONADER pour que la campagne Zéro Enfant dans les forces et groupes armés puisse réussir. Conscient du mauvais service rendu aux dizaines de milliers d'enfants soldats, les porte-parole des groupes armés du Sud Kivu promet que la plupart d'enfants soldats vont être transformés en écoliers conformément à l'esprit du programme Amani. Bukavu, Jean Kassami, dialogue entre Congolais.
Docteur Amacha Komamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le coordonnateur de la commission humanitaire et sociale du programme Amani. Votre réaction par rapport à ce tableau que vient de nous brosser notre confrère Jean Kassani qui est sur place au Sud Kivu?
Merci beaucoup. Je pense que je dois dire d'entrée de jeu que le programme Amani a fait un chemin, car en effet, lorsqu'on voit l'état des lieux au mois de janvier, lorsqu'il y a la conférence sur la paix, la sécurité, le développement du Nord et du Sud Kivu, on était en plein conflit. Et actuellement, à travers l'acte de l'engagement, même si ici et là, il y a quelques violations du cessez-le-feu, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de voir que le nombre d'affrontements et de victimes du cessez-le-feu ont sensiblement diminué. Deuxièmement, Concernant la question de violation des droits de l'homme, en particulier des droits de l'enfant, nous avons eu au début de ce mois de juin une séance avec tous les groupes armés du Nord et du Sud Kivu, avec l'unité de protection des civils de la MONUC, avec l'UNICEF, et nous avons rappelé à tous les délégués des groupes armés ce que prévoit la loi et les conventions internationales en la matière. Nous avons demandé à ce que tout soit fait pour que, d'abord, on ne recrute plus des enfants dans les groupes armés et dans les FARDC, si c'était le cas, et deuxièmement, que tout groupe qui a des enfants, soldats, puisse nous le remettre. Et nous pensons que certains ont continué à recruter, et nous avons eu l'occasion de leur rappeler ça et leur montrer le danger auquel ils s'exposent. Mais par rapport au mois de janvier, je pense qu'il y a un effort qui a été fait de la part de la plupart des groupes armés pour ne pas continuer le recrutement des enfants soldats.
Professeur Machako Mamba, mais de quels moyens dispose le programme Amani, notamment pour imposer à ce groupe d'armées de ne plus recruter des enfants ou même d'adhérer au processus de brassage, parce que certains de ces groupes armés ne veulent pas, refusent d'aller au brassage?
Non, je pense que la majorité des groupes armés veulent aller au brassage. Je pense que nous les avons envoyés à la sensibilisation durant 2 semaines. Nous avons reçu le rapport écrit avec un exposé verbal de différents séjours. Mais pour vous parler des moyens de contrôle, nous avons, à travers les autorités politico-administratives, à travers la MONUC qui est déployée dans le Sud Kivu comme dans le Nord Kivu, à travers les ONG humanitaires qui s'occupent des problèmes des enfants, à travers l'UNICEF et d'autres partenaires, à travers même le programme de DDR. Nous avons donc des éléments sur le terrain qui nous permettent de savoir qui effectivement a continué à recruter, qui a remis les enfants et qui a commencé à remettre les enfants soldats. Donc le programme a mené à travers cet ensemble de partenariats à les moyens de pouvoir identifier ceux qui sont en train de violer le droit de l'enfant, et ceux qui commencent à comprendre que non seulement ils sont stoppés, mais commencent à remettre les enfants dans le cas où ceux-ci ont été enrôlés dans les groupes armés.
Merci beaucoup, docteur Machako. Nous avons également dans cette émission M. Assanda Mwindebatou. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous êtes porte-parole des groupes armés du Sud Kivu. Avant de vous donner la parole, je voudrais d'abord que nous puissions suivre ceci. Le programme Amani n'est pas visible dans le Sud Kivu, estime Jean-Ferdinand Bitawa, président honoraire de la société civile d'Uvira dans le Sud Kivu. Cela à cause des groupes armés qui ne respectent pas l'acte d'engagement. Jean-Ferdinand Bitawa propose des pistes de solutions au gouvernement pour que ce programme avance. Il a été joint au téléphone par notre confrère Guy Roger Nampala.
La visibilité de Amani au niveau du Sud Kivu, vraiment sincèrement, il n'y a pas une visibilité. Dans la mesure où, au contraire, nous assistons à la violation flagrante des lettres d'engagement par ceux-là qui, par le groupe armé qui ont signé. C'est partout au constat que des nouveaux recrutements, des éléments, et parmi lesquels on constate les démobilisés. Et après tout, il y a le récit de certains, tels que les gens du FRS, les groupes de 47 qui, vraiment, tantôt, ils se retirent du programme, pour des raisons qu'ils connaissent eux-mêmes. Pour ce côté-là, je pourrais proposer une solution, c'est que, d'un côté, il faudrait que la commission technique militaire, là, puisse déjà se mettre à pied d'œuvre pour identifier, comme il se doit, tous les membres des différents groupes armés. C'est la première proposition. La seconde, et donc il faudrait que le gouvernement puisse déterminer les moyens, ne plus qu'un minimum, pour les encadrer. Et il faudrait que le gouvernement fasse de tous les moyens pour que les casernes soient urgemment préparées et construites pour accueillir ces jeunes gens et tous ces militaires-là qui viendront au brassage.
Asanda Mwenebatu, je rappelle que vous êtes porte-parole des groupes armés du Sud Kivu. Est-ce que vous et vous représentez les groupes armés qui sont signataires de l'acte d'engagement ou vous représentez aussi ceux qui ont refusé de signer cet acte d'engagement?
Merci, monsieur le journaliste. Je dois avouer que, sincèrement, je représente les groupes armés signataires de l'acte d'engagement pour le camp du Sud Kivu.
Alors, comment vous réagissez par rapport aux propos de Jean-Ferdinand Bitawa, qui est président honoraire de la société civile d'Ouvira au Sud Kivu, qui dit que le programme Amani n'est pas visible dans le Sud Kivu, c'est-à-dire que les combats continuent, les groupes armés continuent à recruter aussi bien des enfants que des personnes adultes, parfois de façon, ils forcent ces personnes-là à intégrer leur rang. Et puis continuent avec leurs exactions. Pas de visibilité à propos de l'action du programme Amani au Sud Kivu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Oui, monsieur le journaliste, ça, ce sont les propos de M. Ferdinand Bitawa. Je sais qu'il y a visibilité des actions du programme Amani dans le Sud Kivu. Par le fait que tous les groupes armés signataires de l'acte d'engagement pour le Sud Kivu, ils sont allés faire la sensibilisation et que les rapports étaient donnés. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que je sais que les groupes armés signataires de l'acte d'engagement pour le compte du Sud Kivu ne sont pas en train de recruter, comme peuvent le dire les uns et les autres. Parce que ce sont des groupes qui avaient déjà des combattants sur le terrain et que, en signant l'acte d'engagement, ils se sont dit que nous devons amener ces combattants au centre de brassage. Et que nous avons en toute conscience signé l'acte d'engagement parce que nous savions que nous ne pouvions plus recruter étant donné que dans la conférence et même l'acte d'engagement lui-même interdit tout recrutement. Et donc, je ne peux pas dire que les groupes armés du Sud Kivu sont en train de faire de nouveaux recrutements. Ça, ce sont les propos des gens qui sont en train de voir le processus de loin. Mais nous qui sommes dans le processus, nous savons que les groupes armés ont respecté l'acte d'engagement qu'ils ont signé et que aucun groupe n'est en train de recruter. Ça, c'est la deuxième chose.
Mais on parle de... On parle du recrutement des groupes armés qui sont notamment basés aux environs d'Ouvira, de Minembwe et de Fizi, selon certaines informations à notre possession.
Non, monsieur le journaliste, les groupes armés signataires de l'acte d'engagement pour le compte du Kivu, par exemple, à Fizi, c'est le groupe Yakutumba qui n'a jamais recruté depuis la signature de l'acte d'engagement. À Ouvira, c'est le groupe Zabouloni qui n'a jamais recruté depuis la signature de l'acte d'engagement. Et je n'ai pas la situation de FRS, peut-être que ce sont les FRS qui recrutent, mais le groupe Yakutumba, le groupe Zabouloni, c'est le groupe Zabouloni qui est à Ouvira, et le groupe Yakutumba dans le secteur de Fizi, et dans le haut plateau de Fizi, là il y a les FRS, le groupe de 47. Si ces groupes de 47 sont en train de recruter, je ne peux pas confirmer, mais je sais que nous, 12 groupes armés signataires de l'acte d'engagement pour le compte du Sud Kivu, nous ne sommes pas en train de recruter, et là, je refuse toute confirmation.
Mais est-ce que vous êtes optimiste quant à l'évolution du programme Amani dans le Sud Kivu, d'autant plus que certains groupes armés tels que les FRS, Forces Républicaines Fédéralistes, se sont retirés du programme Amani et d'autres refusent d'aller même au brassage. Est-ce que vous êtes quand même optimiste malgré cela? C'est dangereux, n'est-ce pas?
Oui, je suis optimiste, monsieur le journaliste, parce que je sais que les 12 groupes armés du Sud Kivu, ils sont à Goma. Je vous parle à partir de Goma. Si les FRS refusent de venir, mais bon, la participation internationale est en train de faire son travail pour demander aux FRS de rentrer dans le processus, parce que nous étions depuis le début avec les FRS jusqu'à ce qu'ils sont allés à la sensibilisation. C'est seulement après la sensibilisation que nous avons constaté que les FRS ne sont pas rentrés à Goma. Et nous avons demandé, d'ailleurs, nous avons fait une déclaration officielle. Tous les groupes armés sud-kivus ont signé cette déclaration pour demander au gouvernement et à la facilitation internationale d'user de leur pouvoir
pour ramener les EPRF dans la plénière de la commission technique mixte paix et sécurité, parce que nous considérons que c'est sur la plénière qui constitue le seul lieu de revendication. Si un groupe ou un autre, chacun a ses revendications, il faut les amener dans la plénière de la commission pour que, au niveau de la plénière, il y ait un débat, et à l'issue de ce débat, il y ait un consensus, et c'est seulement avec le consensus que nous pouvons dire, voilà, nous vous concédons ceci, voilà, nous disons, nous refusons ceci. Et donc, si les intérêts continuent à rester, je crois que cela relève de la compétence de la facilitation internationale pour les ramener dans le processus, mais aussi du gouvernement, et à travers les coordonnées nationales, qui a fait ça d'ailleurs, ce mois-ci, une mission à Minembwe pour leur demander de venir, de rentrer à Goma et continuer le processus avec nous.
Monsieur Assanda Mouenebatou, vous êtes porte-parole des groupes armés du Sud Kivu, signataire de l'acte d'engagement. Puisque vous parlez de la sensibilisation, nous savons que certains groupes armés ont décidé de ne plus participer au programme Amani, tout simplement parce qu'ils estiment que les Mundundu 40, qui les avaient représentés à la conférence de Goma et qui avaient reçu l'argent du gouvernement pour la sensibilisation des groupes armés, ont tout simplement mal utilisé cet argent et ils se sont décidés de quitter le processus. Votre réaction, malgré cela, vous êtes toujours optimiste?
Oui, malgré cela, je reste toujours optimiste parce que je crois dans ce programme-là. Et je sais que, monsieur le journaliste, et là je voudrais rassurer toute la population du Sud Kivu, que nous devons rester optimistes parce que avec le programme Amani, nous sommes rassurés que nous allons mettre fin aux groupes armés dans le Sud Kivu et que tout le monde va aller au brassage. Ça, je suis optimiste. Mais en ce qui concerne les autres groupes armés non signataires et qui avaient écrit une lettre contre Mundundu 40. Monsieur le journaliste, je voudrais vous rassurer que Monsieur Pascal Zagabe, qui est le président de Mundundu 40, a toujours nié qu'il n'a jamais été dans Calais et que c'était un groupe réfracteur au FARDC qui avait sollicité à Mundundu 40 d'être son parrain. Et donc, si à Calais, il y a d'autres mouvements qui ne reconnaissent pas Mundundu 40, là, Mundundu 40, à travers son président et à travers son commandant Odilon, ils ont toujours dit qu'ils ne sont pas dans Calais, et je ne peux pas vous dire, et ni dire à la population, ni du Calais, ni du Sud Kivu, que Mundundu 40 est à Calais, et que le gouvernement a donné l'argent à Mundundu 40, mais Mundundu 40 avait détourné cet argent.
Merci beaucoup.
Ça, je ne connais pas ça.
Merci beaucoup.
Et donc, je voudrais appeler les groupes qui sont dans Calais, et leur dire que ils doivent aller avec nous dans le processus et ne pas avoir de préjugés parce que le gouvernement n'a jamais donné de moyens suffisants pour la sensibilisation. Et le fait qu'il y avait, les Mundundu 40 ont fait le travail de la sensibilisation et il y a les résultats sur le terrain.
Merci beaucoup, Monsieur Assanda Mouenebatou. Vous êtes porte-parole des groupes armés du Sud Kivu. Je reviens à vous, docteur Machako Mamba. Vous êtes coordonnateur de la commission humanitaire et sociale du programme Amani. Il y a quand même beaucoup de problèmes au Sud Kivu. Je ne sais pas si ils sont semblables à ceux constatés au Nord Kivu dans le programme Amani. Il y a des groupes armés qui refusent d'adhérer au programme Amani, peut-être parce qu'ils n'ont pas signé l'acte d'engagement. C'est peut-être aussi soit à cause de l'argent qui aurait été donné à leurs représentants pour la sensibilisation des groupes armés, argent qui aurait été mal utilisé. Il y a aussi des groupes armés qui ont décidé tout simplement de se retirer du processus Amani alors qu'ils avaient signé l'acte d'engagement, à moins que je ne me trompe, c'est le cas des FRF, l'ancien groupe des 47, c'est-à-dire les forces républicaines fédéralistes FRF. Comment réagissez-vous face à tous ces problèmes, docteur Machakipo? Qu'est-ce que vous préconisez pour cela?
Merci beaucoup. Je dois reconnaître que la situation du Sud Kivu est préoccupante. Peut-être moins par rapport à la situation humanitaire dramatique du Nord Kivu avec plus d'1 300 000 déplacés, au nord Kivu et plus de 350 000 déplacés internes au sud Kivu. Les conflits ont entraîné aussi la sortie des compatriotes en dehors de nos frontières, avec pour le sud Kivu des réfugiés qui sont en Tanzanie au Burundi, et pour le nord Kivu ceux qui sont au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. Tout cela fait partie des lourdes tâches de la commission humanitaire. Je voudrais situer les groupes armés à trois niveaux. Il y a des groupes armés qui ont signé l'acte d'engagement, qui ont commencé à travailler avec le programme Amani. Amani signifie paix en français. Amani, c'est le mot swahili pour dire la paix. Et qui donc sont toujours, comme l'a dit M. Afanda, dans le processus. Il y a des groupes qui n'ont pas signé l'acte d'engagement de Goma, mais après sensibilisation, on sent qu'ils tiennent aussi à rejoindre le programme Amani dans le cadre du brassage ou de la démobilisation, et ceci va contribuer effectivement à ramener la paix. Il y a le cas spécifique du FRF, ce sont des frères qui ont été à la conférence, qui ont signé l'acte d'engagement, avec qui nous avons travaillé depuis le mois d'avril, et lorsqu'ils sont partis à la sensibilisation, ils ne sont plus revenus pour continuer les travaux. Au moment où nous arrivons au point crucial, celui de voir les troupes, les groupes armés se désengager, donc quitter les positions où ils sont, se regrouper et choisir soit le brassage ou la démobilisation. Le coordonnateur national, M. Labé Malumalu, a fait le déplacement pour aller rencontrer les frères dans le plateau de Minembwe. La facilitation internationale également est en train aussi de faire un encadrement. Et le gouvernement, à travers différents mécanismes également, est en contact avec ses frères. Et nous pensons que le dernier mot n'est pas encore dit. Les discussions sont encore en cours, donc à ce stade, il est difficile d'affirmer pour dire qu'ils ont rompu définitivement avec le processus de la paix.
Mais, docteur Machako, à quelle étape se trouve actuellement le programme Amani au sud Kivu? Parce qu'au nord Kivu, nous avons entendu cette semaine, c'est pas la semaine passée, certains groupes armés dire qu'ils étaient même prêts à aller être cantonnés dans certains camps pour participer directement au processus de brassage. Mais à quel niveau êtes-vous, à quel niveau se trouve le programme Amani au sud Kivu? Est-ce que vous êtes encore au niveau de la sensibilisation? Est-ce que cette sensibilisation s'est faite dans tous les coins du sud Kivu, ou il y a des, y a-t-il peut-être des coins où vous ne pouvez pas entrer? À quel niveau se trouve ce programme au sud Kivu?
Bon, je pense qu'il faut parler du processus dans le nord et dans le sud Kivu. Que ce soit dans le nord et dans le sud Kivu, après qu'on se soit, on ait commencé les travaux de la commission mixte paix sécurité au mois d'avril, nous avons franchi les étapes qui nous ont amené à nous doter d'un règlement intérieur pour le fonctionnement. Nous avons mis sur pied un calendrier de travail pour définir toutes les étapes qui doivent amener justement les groupes armés à se désengager et à choisir entre le brassage et la démobilisation. Et nous venons aussi de terminer la mise en place des comités provinciaux, les comités provinciaux du programme qui vont permettre de suivre en ce qui concerne les groupes armés tout ce processus de brassage, de désengagement et également de la restauration de l'autorité de l'État. Ça, c'est du côté purement militaire. Et du côté humanitaire, nous avons pratiquement terminé l'élaboration du document qui parle des stratégies et du suivi pour le retour des déplacés internes dans leur village d'origine, et nous sommes en train de poursuivre les contacts après la Tanzanie et l'Ouganda. La semaine prochaine, nous allons entamer les contacts avec, les tout premiers contacts avec le Rwanda pour la problématique des réfugiés, et toujours au mois de juillet avec le Burundi. C'est l'idée que nous arrivons en fait à un point crucial, et c'est là où on doit s'y attendre. Nous arrivons à un stade où les gens, effectivement, par rapport à l'acte de l'engagement, doivent le traduire en action, c'est-à-dire quitter les positions, être désarmés, être regroupés,
et choisir soit d'entrer dans l'armée, c'est ça le brassage, soit être démobilisé, être préparé pour la réinsertion. Nous arrivons maintenant à ce stade dans ce qui concerne les groupes armés, et pour ce qui concerne les déplacés internes, nous sommes au-delà d'un million 500 000 déplacés dans les deux provinces. Là maintenant, nous entamons une étape décisive de sensibilisation pour préparer les communautés locales d'accueillir leurs frères qui se sont déplacés. Et sur le plan diplomatique, nous avons maintenant, cette loi de voir que après la Tanzanie et l'Ouganda, bientôt c'est le Rwanda et le Burundi avec lesquels nous allons entamer la discussion sur le retour des réfugiés congolais qui sont dans les deux pays respectifs.
Merci beaucoup, docteur Mashako Mamba. Je me tourne encore vers vous, monsieur Asanda Mouine-Batou, puisque vous êtes porte-parole des groupes armés du Sud Kivu, signataire de l'acte d'engagement. Vous représentez donc ces groupes armés. Alors, quand est-ce que vous allez commencer finalement, vous allez déposer vos armes, évacuer les positions que vous occupez pour l'instant, afin de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations, laisser ses positions entre les mains des FARDC ou des troupes de la MONUC, et finalement être tantonné afin de choisir entre la démobilisation ou peut-être le brassage?
Monsieur le journaliste, merci beaucoup de la question. Je voudrais vous rassurer que nous sommes prêts, mais nous sommes dans un processus. Nous sommes dans la commission technique mixte de sécurité qui a des sous-commissions, comme l'a dit le prof Mashako, la sous-commission humanitaire et sociale, il l'a expliqué parce qu'il est le coordonnateur interprovincial, et la sous-commission militaire mixte, qui est coordonné par le général Mala Benker. Et à notre niveau, au niveau de la sous-commission militaire mixte, il y a des avancées par rapport au désengagement. Parce que nous avons terminé la première phase et nous sommes déjà au niveau de la deuxième phase qui consiste à donner la cartographie de nos troupes et les munitions que nous avons, les effectifs et ainsi de suite, pour permettre un bon désengagement. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des avancées et que nous rassurons que les combattants, après la sensibilisation, nous avons donné les rapports, ils sont tous prêts pour aller au centre de brassage. Et la seule chose, c'est que on veut bien se désengager, mais nous serions souhaités que les intérêts viennent nous rencontrer pour qu'ensemble nous puissions nous désengager, parce que nous sommes engagés pour ça.
Mais pourquoi pourquoi vous ne pouvez pas vous désengager des positions que vous occupez actuellement et laisser le temps aux responsables du programme à Mali, pourquoi pas à la facilitation internationale de convaincre les FRS?
Oui, nous désengager des positions que nous avons, c'est ce que je disais. Nous avons défini d'abord la partie théorique, la phase théorique du désengagement. Maintenant, nous sommes sur la phase cartographique. Il faut montrer sur la carte géographique les combattants là où ils sont, les armes que nous avons, ainsi de suite. Et nous sommes prêts. Mais nous sommes en train d'encourager le coordonnateur national du programme Amani, la participation internationale, pour que ils fassent de tous leurs moyens pour amener les intérêts, parce que je dois avouer, monsieur le journaliste, tout en corrigeant ce que le professeur Mashako a dit, que le haut plateau de Minembwe, il n'existe pas le plateau de Minembwe, il existe le haut plateau de Fizi et Vitombwe. Alors, nous, par exemple, le groupe de Akuzumba, nous ne pouvons pas dire, sinon nous serons demandeurs, dire que nous allons nous engager pendant que les intérêts ne font pas aussi comme nous. Parce que pour aller au centre de regroupement, nous devons aller au même moment avec les intérêts. Le groupe Zabloni, la même chose. Le Maïmaï Kapoko, la même chose. Le Maïmaï Nikiriba, Maïmaï Maoro, Maïmaï Shikito. Et donc, vous comprenez qu'il est très important et important pour que le coordinateur national, la facilitation internationale, fassent de tout ce qui est dans leur pouvoir pour amener les intérêts dans le centre, dans la commission, afin que, quand nous avons terminé toutes les parties, parties pratiques, je m'excuse, parties théoriques du désengagement, et quand on va passer à la partie pratique, c'est-à-dire aller dans le centre de regroupement, que nous puissions le faire ensemble et au même moment.
Merci beaucoup.
Ça va faire à ce qu'il y ait confiance entre les uns et les autres.
Merci beaucoup, Monsieur Hassan Damouine Bastou, porte-parole des groupes armés du Sud Kivu, d'avoir participé à cette émission, puisque nous devons également avoir Monsieur Elson Malamou, qui est coordonnateur de l'ONG Coalition pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation des enfants soldats. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à cette émission, Monsieur Assanda. Docteur Machako Mamba, vous êtes coordonnateur de la commission humanitaire et sociale du programme Amani. Quelle est votre réaction par rapport à ce problème de FRF qui risque de poser problème au niveau du Sud Kivu, car les autres groupes armés attendent à ce que le FRF également puisse rejoindre le processus à Mani. Sans cela, ils ne pourront pas se désengager des positions qu'ils occupent actuellement, ils ne pourraient pas avancer dans ce processus. Professeur Machako Mamba, nous avons quelques problèmes à recevoir le professeur Machako Mamba. J'espère que M. Hassan Damouine Bagdou, porte-parole des groupes armés du Sud Kivu, vous êtes encore là. Voilà, nous avons quelques petits problèmes. Juste avant que nous puissions les récupérer, nous allons peut-être demander, je vais lire quelques réactions. Il y a par exemple la réaction de Monsieur Bienvenu Mundele depuis Uvira dans le Sud Kivu, qui affirme qu'on ne sent pas encore l'impact du programme Amani sur le terrain, car d'après lui, la paix n'est pas encore de retour et les miliciens font toujours la loi malgré leur signature de l'acte d'engagement. Donc, en attendant de pouvoir récupérer nos invités, peut-être que la technique pourra nous balancer un petit morceau de musique, le temps de pouvoir récupérer nos invités, puisque tous sont au téléphone. Oui, on dit que oui, nous avons récupéré Monsieur Asanda, c'est ça, Machako. Docteur Machako, qu'est-ce que cela vous, comment vous réagissez par rapport au fait que, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un petit blocage parce que les autres groupes armés, à entendre Monsieur Asanda, qui représente les groupes armés du Sud Kivu, il dit que tant que les FRF ne vont pas rejoindre le processus à Mani, c'est désengager des positions que ce groupe armé occupe, les autres groupes armés également n'iront pas au brassage ou à la démobilisation. Est-ce qu'on ne risque pas de vivre un petit blocage?
Oui, merci beaucoup. Je pense que lorsque les différents délégués ont signé, ils ont signé non pas au nom de Sud Kivu, mais ils ont signé au nom de chaque mouvement. Nous pouvons, sans minimiser l'importance ceux qui aujourd'hui se posent des questions s'ils doivent rester dans le processus ou non, mais nous pouvons vous assurer que la quasi-majorité d'autres partenaires restent engagés, a même voulu dans certains cas anticiper le regroupement en vue d'un désarmement et un choix pour le passage de la démobilisation. Nous sommes conscients que c'est un moment difficile que nous traversons. Le contraire nous aurait étonné parce qu'il est facile de commencer une guerre, mais il n'est pas facile de la terminer. Et donc, nous sommes conscients qu'en continuant à parler avec les uns et les autres, tout en continuant à faire avancer le processus, que nous pourrions voir les amis revenir autour de la table et que le processus puisse continuer jusqu'à son terme. Car si chacun d'entre nous est à l'écoute de ce que dit la population, que ce soit au nord ou au sud Kivu, que ce soit en ville ou dans les milieux ruraux, il y a une seule chose que la population nous demande, nous voulons la paix pour reprendre nos activités de tous les jours. Mmh. Je ne sais pas si on peut prétendre être protecteur ou libérateur d'un peuple ou d'une communauté et rester sourd devant ce cri d'alarme qui est sans équivoque, que l'on entend non seulement au nord sud Kivu, on l'entend au Maniema, on l'a entendu à Ituri et on l'a entendu au nord Katanga également.
Donc,
le secteur où nous sommes concernés pour la question de déplacés internes qu'il faudra ramener aussi dans les provinces du nord du sud Kivu.
Merci beaucoup, Dr. Mashakumama. Donc, vous croyez en l'avenir de ce programme au sud Kivu et pourquoi pas au nord Kivu également?
Absolument, absolument, parce que telle est la volonté d'abord de la population, telle aussi a été la volonté du chef de l'État lorsqu'il est venu personnellement présider cette cérémonie de signature d'acte d'engagement et la mise sur pied dès le mois de février, donc
nous
justement après la
clôture
de la Coupe de Goma du programme
Amani
et toutes les
présentations que le gouvernement
met à la disposition
des animateurs du programme. S'il vous plaît, merci beaucoup Dr. Mashako, c'est par vous que nous terminons cette émission. Au revoir et bonne soirée.